Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au Lyon Olympique Universitaire Rugby, couramment abrégé en Loup Rugby. La section a été fondée sous le nom Racing Club de Lyon en 1896 et devient le Lyon Olympique Universitaire en 1901. L'acronyme Loup, comme on le connaît aujourd'hui, est né. Le Loup est notamment double champion de France 1932 et 1933. Après plusieurs allers-retours entre le top 14 et la Pro D2 au début des années 2010, le Loup Rugby évolue depuis la saison 2016-2017 en top 14. Il est demi-finaliste contre Montpellier en 2018 et contre Clermont en 2019. Au niveau européen, il remporte le Challenge européen en 2022 en battant le RC Toulon en finale. Pendant l'entre-deux-guerres, le Loup joue les premiers rôles dans le championnat, notamment grâce à un recrutement de joueurs venant du Languedoc-Roussillon. Dans la période 1920-1930, le Loup supplante le FC Lyon comme meilleur club de rugby du Lyonnais, champion de France en 1910, devant le Stade Bordelais Université Club. Le rugby est alors dans une période de trouble entre amateurisme, professionnalisme et amateurisme marron, comme on le disait à l'époque. En 1931, la finale va donner un vainqueur inédit à Bordeaux. Toulon l'emporte 6-3 face au Loup, 2-1. Le match est émaillé de bagarres et de violences. Les vertus qui feront la réputation et l'histoire du club varois y sont déjà présentes, avec son lot de défis physiques, d'engagement et de provocation. Le capitaine et trois garçons du RCT, Marcel Bayette, obtient là son troisième titre, avec trois clubs différents. Il avait déjà soulevé le bouclier de Brennus avec Perpignan en 1926 et Quillan en 1929. Lyon est champion de France en 1932. En 1932, pourtant, un schisme apparaît. Il oppose dirigeants de la Fédération française de rugby et représentants de l'UFRA, l'Union française de rugby amateur. 14 clubs font sécession et créent leur propre compétition. Toulouse, Bayonne, Perpignan, le Stade français, Tarbes, Biarritz font partie des dissidents. Le Loup remporte son premier titre. Des bagarres et un expulsé de chaque côté. Narbonne s'incline 9-3. Heureusement, pendant ce temps, Fédération française de rugby et UFRA trouvent un accord et tout rentre dans l'ordre pour 1933. En 1933, Narbonne s'incline face à Lyon 10-3. Après la Seconde Guerre mondiale, le rugby à 15 lyonnais connaît une période de déclin qui peut être imputée tout d'abord à l'émergence du rugby à 13 dans la région, puis à la popularité du football, l'Olympique lyonnais, jouant en première division dès 1954. Sur le plan régional, le Loup est concurrencé par les clubs isérois voisins du CS Vienne, champion de France en 1937, du FC Grenoble, champion de France en 1954, puis ensuite de Bourgoin-Jallieu. Lyon constitue par sa population la troisième commune de France avec 522 000 habitants, la ville-centre de la deuxième unité urbaine avec 1 693 000 habitants et de la deuxième aire d'attraction de France avec 2 300 000 habitants. Elle est la préfecture du département du Rhône, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la zone de défense et de sécurité du Sud-Est et le siège de la métropole de Lyon qui rassemble 59 communes et 1 416 000 habitants. La ville exerce une attractivité d'importance nationale et européenne. Son importance dans les domaines culturels, bancaires, financiers, commerciaux, technologiques, pharmaceutiques ou encore les arts et les divertissements. Lyon, historiquement industriel, a accueilli à son sud, le long du Rhône, de nombreuses activités pétrochimiques, dans ce que l'on nomme le couloir de la chimie. Après le départ et la fermeture des industries textiles, elle s'est progressivement recentrée sur les secteurs d'activité de techniques de pointe, tels que la pharmacie et les biotechnologies. C'est également la deuxième ville étudiante de France, avec 4 universités et plusieurs grandes écoles. Enfin, la ville a conservé un patrimoine architectural important, allant de l'époque romaine au XXe siècle, en passant par la Renaissance. Et à ce titre, les quartiers du Vieux-Lyon, de la colline de Fourvière, de la Presqu'île et des pentes de la Croix-Rousse sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si le lieu semble habité depuis la préhistoire, la première ville, Lugdunum, date de 43 avant Jésus-Christ. Sous l'Empire romain, Lyon devient une puissante cité, capitale de la Gaule romaine. La chute de l'Empire romain la relègue à un rôle secondaire dans l'espace européen en raison de son éloignement des centres de pouvoir. Puis la division de l'Empire carolingien la place en position de ville frontière. Jusqu'au XIVe siècle, le pouvoir politique est tout entier entre les mains de l'archevêque, qui protège jalousement l'autonomie de sa ville. Il faut attendre 1312 à 1320 pour voir l'institution consulaire contrebalancer son pouvoir, au moment même où la cité intègre définitivement le royaume de France. À la Renaissance, Lyon se développe considérablement et devient une grande ville commerçante européenne grâce au succès des 4 foires annuelles. L'ensemble du grand commerce européen passe désormais, et pour un siècle, par Lyon. Et les plus grandes banques de l'époque, essentiellement italiennes, s'installent en ville, dont les Médicis, les Gadagne ou les Gondi. Lyon se développe également grâce à ses industries propres, dont les plus importantes sont la soierie et l'imprimerie. Ce second âge d'or est fauché par les guerres de religion. La ville mettra du temps à s'en remettre et ne retrouvera pas le prestige antérieur. La plupart des imprimeurs ont émigré à Genève. De même, les grandes familles bancaires fuient Lyon à cette époque pour n'y jamais revenir. Durant la monarchie absolue, Lyon reste une cité française moyenne dont la principale richesse est le travail de la soie. Le XVIIIe siècle lyonnais est marqué par 2 inventions majeures qui furent testées chacune en 1783, le bateau à vapeur et la montgolfière. La Révolution dévaste la ville, qui s'oppose en 1793 à la Convention. Prise militairement, elle est sévèrement réprimée et sort de la tourmente révolutionnaire très affaiblie. Napoléon aide à son redressement par un soutien aux soyeux, qui arrive en même temps que la mise au point du métier jacquard. C'est le point de départ d'un essor économique et industriel qui dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. Durant le XIXe siècle, Lyon est une ville canue et connaît, en 1831 et 1834, de violentes révoltes ouvrières. L'insurrection de 1834 part du quartier de la Croix-Rousse et fait trembler jusqu'à Paris. La ville est reliée à Saint-Étienne par l'une des premières voies ferrées au monde, la première ligne de transport de voyageurs en France, par l'ingénieur Marc Seguin de 1827 à 1832. La mécanisation entraîne de nombreuses luttes sociales avec des crises insurrectionnelles comme la révolte des canuts en 1831. L'implantation du métier à tisser de jacquard marqua l'essor d'une culture sur les systèmes mécaniques complexes, les inventions de la machine à coudre par Timonier et ultérieurement celle du cinéma par les frères Lumière sont redevables des astuces mécaniques du métier à tisser enchaînant des séries d'actions successives, dont les progressions de bande par à-coup. La Belle Époque marque la fin de la domination de la soie lyonnaise et l'essor de nombreuses autres industries, automobiles, chimie, électricité. La municipalité, quant à elle, retrouve ses pouvoirs avec la Troisième République et s'engage dans un long siècle de radicalisme qui se termine avec Édouard Herriot en 1957. La Seconde Guerre mondiale voit Lyon, une des principales villes de la zone libre, être le centre des plus grands réseaux de la résistance. Jean Moulin, notamment, les unifie au sein des mouvements unis de la résistance. Durant la Seconde Guerre mondiale, étant située en zone non occupée jusqu'en novembre 1942 et très proche de la ligne de démarcation, la ville accueille les réfugiés. Elle devient un foyer de résistance. Les traboules, très liées à l'histoire de Lyon, y contribuent beaucoup, car elles permettent de fuir la Gestapo facilement. Le chef de la résistance, Jean Moulin, est néanmoins capturé à Caluire, dans sa banlieue. La ville est bombardée le 26 mai 1944 par l'aviation alliée, peu avant sa libération, le 3 septembre 1944, par la première des FEL et les FFI. Au mois de juin 1944, le groupe des révolutionnaires communistes allemands et autrichiens, RKD, exilés en France, publie dans son journal clandestin, Spartacus, l'organigramme quasi complet des services de la Gestapo à Lyon, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, ancien siège de la Gestapo, rend aujourd'hui hommage à ce passé. Lyon, d'ailleurs, possède le titre de capitale de la résistance, un titre glorieux décerné par le général de Gaulle le 14 septembre 1944, quelques jours après la libération de la ville. À la sortie de la guerre, Lyon se redresse rapidement et connaît un vigoureux développement urbain avec l'édification d'un grand nombre de quartiers d'habitation. Dotée d'industries puissantes et d'un secteur tertiaire en plein essor, la ville tient son rang de grande métropole française et européenne. Une citation de l'historien Fernand Braudel, 1902-1985, présente bien la richesse et la complexité de l'histoire de Lyon. Le destin de Lyon n'est pas plus simple que celui du fleuve. Toute ville, sans doute, est un être compliqué, Lyon plus qu'une autre, qui frappe l'historien par sa richesse, ses brusques transformations, ses originalités, voire ses étrangetés. Elle n'est pas la même d'un siècle au siècle suivant, et, plus contrainte qu'allant de son plein gré, elle passe sans fin d'une originalité à une autre. Elle est, à elle seule, un difficile problème de l'historien de France, peut-être le problème clé, sûrement l'indicateur clé.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.